Mystères de l'Église avec Monseigneur Marc Haillet.
Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques du peuple de Dieu ? Le Concile Vatican II, tel que le catéchisme de l'Église catholique les énonce, nous dit au numéro 782 la chose suivante. Le peuple de Dieu a donc des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. C'est ce que dans ma dernière catéchèse j'essaie de dire de manière un peu sémantique, en faisant la distinction entre « plebs » appliqué à toutes les nations païennes et « populus » appliqué de manière spécifique au peuple d'Israël. Il est donc le peuple de Dieu, ça je l'ai déjà dit, un peuple donc qui n'appartient à aucun peuple, et parce que c'est Dieu qui s'est acquis ce peuple, et de manière définitive, comme on l'a déjà esquissé, à travers le sang du Christ. On n'appartient donc pas à ce peuple par la naissance. On ne devient pas membre de ce peuple par la naissance physique. Je deviens français parce que je suis né en France, ou de parents français, donc sur cette terre qui est la terre de France. Je ne deviens pas membre du peuple de Dieu par cette naissance physique, mais, comme Jésus le dira à Nicodème, au chapitre 3 de Saint Jean, par une naissance d'en haut, c'est-à-dire de l'eau et de l'Esprit Saint, à travers le baptême. Je deviens membre du peuple de Dieu par la foi au Christ et donc par le baptême, qui est donc cette première caractéristique qui fait de moi un membre du peuple de Dieu. Pas seulement par le fait que nous sommes inscrits dans un registre matériel et que de fait nous allons donner au denier de l'Église, c'est pas ça qui nous fait être membre de ce peuple comme d'une association quelconque, mais par le baptême. Ce peuple a un chef. Je vous rappelle que le mot « chef » vient du mot latin « caput », qui se traduit par « tête ». Il a une tête. C'est Jésus, le Christ. Christ veut dire « oint », celui qui a reçu l'onction, et qui traduit le mot hébreu « messia », que nous traduisons en français par le mot « messie ». Parce que la même onction, l'Esprit-Saint, découle de la tête dans le corps. Il est dit peuple chrétien, ou autrement dit, peuple messianique. Il participe de l'onction de l'Esprit-Saint. Quand Jésus dit, en s'appliquant à lui-même, l'oracle messianique d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé annoncer l'Évangile aux pauvres », eh bien, cette parole peut être appliquée à tous ceux qui sont incorporés au Christ par le baptême et qui reçoivent cette même onction de l'Esprit-Saint qui découle de la tête sur le corps tout entier. La tête joue son rôle, elle est reliée au corps et donc elle transmet cette onction. On appelle cette grâce que nous recevons au baptême la grâce capitale, parce que dans le mot capital, il y a le mot caput, et donc il y a le mot tête. C'est la grâce qui vient de la tête, qui est le Christ, qui nous communique sa grâce à travers le baptême pour nous incorporer à lui et devenir un peu ainsi membre de ce peuple qu'il s'est acquis, dont il est la tête, qui devient un peuple messianique. La condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu. Dans leur cœur, comme dans un temple, réside l'Esprit-Saint. Voilà. Ça, c'est très important, parce que ça nous indique que tous les membres de l'Église, quelle que soit leur fonction, et pour l'instant, on ne parle pas des différentes fonctions du peuple de Dieu, mais tous les membres du peuple de Dieu, qu'ils soient pape, évêque, prêtre, diacre, consacré, ou fidèles laïcs, ou fidèles de base, comme on dira, nous avons tous une condition égale, une même dignité, celle qui fait de nous des fils de Dieu et qui avons la liberté des enfants de Dieu, qui vient évidemment de la grâce de l'Esprit-Saint que nous avons reçue. Je crois que c'est très important de situer cela tout de suite. Et d'une certaine manière, on comprendra mieux ensuite comment s'articulent les différences, parfois non seulement d'essence et de degré, non seulement de degré mais d'essence, entre les différents membres du peuple de Dieu. Hein, les différences entre les évêques, les prêtres, les fidèles laïcs, etc. Ce qui fonde ces différences, c'est d'abord une égalité de conditions. On trouve dans une homélie de saint Léon le Grand, que l'on lit dans l'office des lectures pour sa fête, hein, c'est le 10 novembre, et une phrase très belle que je vous lis et qui exprime bien cela, qui est le fondement même de l'Église, qu'on ne doit jamais oublier. Voyez. Cependant, comme dit l'apôtre, tous nous ne faisons qu'un dans le Christ. Aucun de nous n'est séparé d'un autre par sa fonction, au point que la plus modeste partie du corps ne serait pas reliée à la tête. Donc, écoutez bien cette phrase, car elle résume bien ce que je suis en train de dire sur la condition des membres du peuple de Dieu. Dans l'unité de la foi et du baptême, nous constituons une société sans classe, mais bien-aimée, et nous avons une même dignité, selon le saint apôtre Pierre, qui nous dit ces paroles sacrées dans sa première épître, « Vous aussi soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel et vous serez le sacerdoce saint présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. » Et plus loin, « Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. » Vous voyez, c'est un bon résumé de ce que nous avons déjà dit sur la condition de ce peuple dont on devient membre par le baptême. Hein, dont le chef est le Christ, mais nous sommes tous une société sans classe, une nation sainte par l'égalité de dignité qui nous vient du baptême. Quelle est sa loi à ce peuple ? Eh bien, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. Hein, c'est la loi nouvelle de l'Esprit Saint hein, qui a été promulgué par le Christ. Hein, à cela tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus à ses disciples, qui est vraiment la loi qui régit d'une certaine manière ce peuple de Dieu. Eh bien, c'est aimez-vous les autres, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, c'est-à-dire en donnant votre vie pour vos frères, hein, et en étant capable d'aimer les autres plus que vous-même, en sacrifiant même votre vie pour vos frères, même quand ils sont vos ennemis. Sa mission, c'est ce que Jésus dira aussi dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5 de saint Matthieu, après avoir promulgué les béatitudes, hein, proclamé les béatitudes, eh bien, il dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde hein. ». C'est très important de se dire que l'Église, qui est la lumière des nations, hein, comme le dit le titre de cette constitution dogmatique du Concile sur l'Église, eh bien, est appelée à être le sel de la terre et la lumière du monde. Il constitue, dit le Concile, pour tout le genre humain, le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Et enfin, quelle est sa destinée à ce peuple qui appartient à Dieu, que Dieu s'est choisi et auquel nous participons désormais par la grâce du baptême, eh bien, c'est le royaume de Dieu commencé sur la terre, par Dieu lui-même, mais qui doit se dilater de plus en plus, jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même. Donc sa destinée, elle est eschatologique, elle s'accomplira pleinement, eh bien, dans le royaume des cieux, qui est la finalité dernière du dessein de Dieu, lorsqu'il crée l'homme pour les faire entrer définitivement dans sa communion d'amour.